Jules Verne, Robur le Conquérant, chapitre 5, dans lequel une suspension d'hostilité est consentie entre le président et le secrétaire du Weldon Institute. Un bandeau sur les yeux, un bâillon dans la bouche, une corde au poignet, une corde au pied, donc impossible de voir, de parler, de se déplacer. Cela n'était pas fait pour rendre plus acceptable la situation de Oncle Prudent, de Phil Evans et du valet Fricolin. En outre, ne point savoir quels sont les auteurs d'un pareil rapt, en quel endroit on a été jeté, comme de simples colis dans un wagon de bagages, ignorer où l'on est, à quel sort on est réservé, il y avait là de quoi exaspérer les plus patients de l'espèce ovine. Et l'on sait que les membres du Weldon Institute ne sont pas précisément des moutons pour la patience. Étant donné sa violence de caractère, on imagine aisément dans quel état Oncle Prudent devait être. En tout cas, Phil Evans et lui devaient penser qu'il leur serait difficile de prendre place, le lendemain soir, au bureau du club. Quant à Fricolin, yeux fermés, bouche close, il lui était impossible de songer à quoi que ce fût. Il était plus mort que vif. Pendant une heure, la situation des prisonniers ne se modifia pas. Personne ne vint les visiter, ni leur rendre la liberté de mouvement et de parole, dont ils auraient eu si grand besoin. Ils étaient réduits à des soupirs étouffés, à des uns, poussés à travers leurs bâillons, à des soubresauts de carpes qui se pâment hors de leur bassin natal. Ce que cela indiqua de colère muette, de fureur rentrée, ou plutôt ficelée, on le comprend de reste. Puis, après ces infructueux efforts, ils demeurèrent quelque temps inertes. Et alors, puisque le sens de la vue leur manquait, ils s'essayèrent à tirer par le sens de l'ouïe quelque indice de ce qu'était cet inquiétant état de choses. Mais en vain cherchaient-ils à surprendre d'autres bruits que l'interminable et inexplicable « frrr » qui semblait les envelopper d'une atmosphère frissonnante. Cependant, il arriva ceci. C'est que Phil Evans, procédant avec calme, parvint à relâcher la corde qui lui liait les poignets. Puis, peu à peu, le nœud se desserra, ses doigts glissèrent les uns sur les autres, ses mains reprirent leur aisance habituelle. Un vigoureux frottement rétablit sa circulation, gêné par le ligotement. Un instant après, Phil Evans avait enlevé le bandeau qui lui couvrait les yeux, arraché le bâillon de sa bouche, coupé les cordes avec la fine lame de son Bowie knife. Un Américain qui n'aurait pas toujours son Bowie knife en poche ne serait plus un Américain. Du reste, si Phil Evans y gagna de pouvoir remuer et parler, ce fut tout. Ses yeux ne trouvèrent pas à s'exercer utilement, en ce moment du moins. Obscurité complète dans cette cellule. Toutefois, un peu de clarté filtrait à travers une sorte de meurtrière, placée dans la paroi, à 6 ou 7 pieds de hauteur. On le pense bien. Quoi qu'il en eût, Phil Evans n'hésita pas un instant à délivrer son rival. Quelques coups de Bowie knife suffirent à trancher les nœuds qui le serraient aux pieds et aux mains. Aussitôt, Oncle Prudent, à demi enragé, de se redresser sur les genoux, d'arracher bandeau et bâillon, puis d'une voix étranglée. « Merci, » dit-il. « Non, pas de remerciement, » répondit l'autre. « Phil Evans ? Oncle Prudent ? Ici, plus de président ni de secrétaire du Weldon Institute, plus d'adversaire. Et vous avez raison, répondit Phil Evans. Il n'y a plus que 2 hommes qui ont à se venger d'un 3e, dont l'attentat exige de sévères représailles, et ce 3e, c'est Robur. C'est Robur. Voilà donc un point sur lequel les 2 ex-concurrents furent absolument d'accord. À ce sujet, aucune dispute à craindre. Et votre valet ? Fit observer Phil Evans, montrant Fricolin, qui soufflait comme un phoque. « Il faut le déficeler. »« Pas encore, » répondit Oncle Prudent. « Il nous assommerait de ses jérémiades, et nous avons autre chose à faire qu'à récriminer. »« Quoi donc, Oncle Prudent ? » ?»« À nous sauver, si c'est possible. »« Et même si c'est impossible. » »« Vous avez raison, Phil Evans. Même si c'est impossible. » Quant à douter un instant que cet enlèvement dût être attribué à cet étrange Robur, cela ne pouvait venir à la pensée du président et de son collègue. En effet, de simples et honnêtes voleurs, après leur avoir dérobé montres, bijoux, portefeuilles, porte-monnaie, les aurait jetés au fond de la Shulky River, avec un bon coup de couteau dans la gorge, au lieu de les enfermer au fond de quoi ? Grave question en vérité, qu'il convenait d'élucider, avant de commencer les préparatifs d'une évasion avec quelques chances de succès. Phil Evans, reprit oncle Prudent. Après notre sortie de cette séance, au lieu d'échanger des aménités sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, nous aurions mieux fait d'être moins distraits. Si nous étions restés dans les rues de Philadelphie, rien de tout cela ne serait arrivé. Évidemment, ce Robur s'était douté de ce qui allait se passer au club. Il prévoyait les colères que son attitude provocante devait soulever. Il avait placé à la porte quelques-uns de ses bandits, pour lui prêter main forte. Quand nous avons quitté la rue Walnut, ses sbires nous ont épiés, suivis. Et lorsqu'ils nous ont vus imprudemment engagés dans les avenues de Fairmont Park, ils ont eu la partie belle. D'accord, répondit Phil Evans. Oui, nous avons eu grand tort de ne pas regagner directement notre domicile. On a toujours tort de ne pas avoir raison, répondit oncle Prudent. En ce moment, un long soupir s'échappa du coin le plus obscur de la cellule. Qu'est-ce cela ? Demanda Phil Evans. Rien. Fricolin qui rêve. Et oncle Prudent repartit. Entre le moment où nous avons été saisis, à quelques pas de la clairière, et le moment où on nous a jetés dans ce réduit, il ne s'est pas écoulé plus de 2 minutes. Il est donc évident que ces gens ne nous ont pas entraînés au-delà de Fairmont Park. Et s'ils l'avaient fait, nous aurions bien senti un mouvement de translation. D'accord, répondit oncle Prudent. Donc il n'est pas douteux que nous soyons enfermés dans le compartiment d'un véhicule. Peut-être un de ces longs chariots des prairies. Ou quelques voitures de saltimbanque. Évidemment. Si c'était un bateau amarré aux rives de la Shulky River, cela se reconnaîtrait à certains balancements que le courant lui imprimerait d'un bord à l'autre. D'accord. Toujours d'accord, répéta oncle Prudent. Et je pense que puisque nous sommes encore dans la clairière, c'est le moment ou jamais de fuir. Quitte à retrouver plus tard ce Robur. Et à lui faire payer cher cette atteinte à la liberté de 2 citoyens des États-Unis d'Amérique. Cher, très cher. Mais quel est cet homme ? D'où vient-il ? Est-ce un Anglais, un Allemand, un Français ? C'est un misérable, cela suffit, répondit oncle Prudent, maintenant à l'œuvre. Tous deux, les mains tendues, les doigts ouverts, palpèrent alors les parois du compartiment, pour y trouver un joint ou une fissure. Rien. Rien non plus à la porte. Elle était hermétiquement fermée, et il eût été impossible de faire sauter la serrure. Il fallait donc pratiquer un trou et s'échapper par ce trou. Restait la question de savoir si les Bowie Knife pourraient entamer les parois, si leur lame ne s'émousserait pas ou ne se briserait pas dans ce travail. Mais d'où vient ce frémissement qui ne cesse pas ? Demanda Phil Evans, très surpris de ce frrr continu.
Le vent, sans doute, répondit oncle Prudent.
Le vent ? Jusqu'à minuit, il me semble que la soirée a été absolument calme. Évidemment, Phil Evans. Si ce n'était pas le vent, que voudriez-vous que ce fût ? Phil Evans, après avoir dégagé la meilleure lame de son couteau, essaya d'entamer les parois près de la porte. Peut-être suffirait-il de faire un trou pour l'ouvrir par l'extérieur, si elle n'était maintenue que par un verrou, ou si la clé avait été laissée dans la serrure. Quelques minutes de travail n'eurent d'autre résultat que d'ébrécher les lames du Bowie Knife, de les épointer, de les transformer en scie à 1000 dents. Ça ne mord pas, Phil Evans. Non. Est-ce que nous serions dans une cellule en tôle ? Point, oncle Prudent. Ces parois, quand on les frappe, ne rendent aucun son métallique.
De bois ? De fer, alors ?
Non. Ni fer, ni bois. Qu'est-ce, alors ? Impossible de le dire. Mais en tout cas, une substance sur laquelle l'acier ne peut mordre. Oncle Prudent, pris d'un violent accès de colère, jura, frappa du pied le plancher sonore, tandis que ses mains cherchaient à étrangler un Robur imaginaire. « Du calme, oncle Prudent, » lui dit Phil Evans. « Du calme. Essayez à votre tour. » Oncle Prudent essaya. Mais le Bowie Knife ne put entamer une paroi qu'il ne parvenait même pas à rayer de ses meilleures lames, comme si elle eût été de cristal. Donc tout de suite devenait impraticable, en admettant qu'elle eût pu être tentée, la porte une fois ouverte. Il fallut se résigner, momentanément, ce qui n'est guère dans le tempérament yankee, et tout attendre du hasard, ce qui doit répugner à des esprits éminemment pratiques. Mais ce ne fut pas sans objurations, gros mots, violentes invectives à l'adresse de ce Robur, lequel ne devait point être homme à s'en émouvoir, pour peu qu'il se montrât dans la vie privée le personnage qu'il avait été au milieu du Weldon Institute. Cependant, Fricolin commençait à donner quelques signes non équivoques de malaise. Soit qu'il éprouvât des crampes à l'estomac, ou des crampes dans les membres, il se démenait d'une lamentable façon. Oncle Prudent crut devoir mettre un terme à cette gymnastique en coupant les cordes qui serraient le nègre. Peut-être eut-il lieu de s'en repentir. Ce fut aussitôt une interminable litanie, dans laquelle les affres de l'épouvante se mêlaient aux souffrances de la faim. Fricolin n'en était pas moins pris par le cerveau que par l'estomac. Il eût été difficile de dire auquel de ces deux viscères le nègre était plus particulièrement redevable de ce qu'il éprouvait. « Fricolin !» s'écria oncle Prudent. « Master oncle ! Master oncle !» répondit le nègre entre deux vagissements lugubres. « Il est possible que nous soyons condamnés à mourir de faim dans cette prison. » Mais nous sommes décidés à ne succomber que lorsque nous aurons épuisé tous les moyens d'alimentation susceptibles de prolonger notre vie. « Me manger ?» s'écria Fricolin. Comme on fait toujours d'un nègre en pareille occurrence. Ainsi, Fricolin, tâche de te faire oublier. Ou l'on te fricassera, ajouta Phil Evans. Et très sérieusement, Fricolin eut peur d'être employé à la prolongation de deux existences, évidemment plus précieuses que la sienne. Il se borna donc à gémir in petto. Cependant, le temps s'écoulait, et toute tentative pour forcer la porte ou la paroi était demeurée infructueuse. En quoi était cette paroi? Impossible de le reconnaître. Ce n'était pas du métal, ce n'était pas du bois, ce n'était pas de la pierre. En outre, le plancher de la cellule semblait fait de la même matière. Lorsqu'on le frappait du pied, il rendait un son particulier, que oncle Prudent aurait eu quelque peine à classer dans la catégorie des bruits connus. Autre remarque, en dessous de ce plancher paraissait sonner le vide, comme s'il n'eût pas directement reposé sur le sol de la clairière. Oui, l'inexplicable « frrr » semblait en caresser la face inférieure. Tout cela n'était pas rassurant. « Oncle Prudent ?» dit Phil Evans. « Phil Evans ?» répondit oncle Prudent. « Pensez-vous que notre cellule se soit déplacée ?»« En aucune façon. » »« Pourtant, au premier moment de notre incarcération, j'ai pu distinctement percevoir la fraîche odeur de l'herbe et la senteur résineuse des arbres du parc. Maintenant, j'ai beau humer l'air, il me semble que toutes ces senteurs ont disparu. » »« En effet. Comment expliquer cela ?»« Explique-le de n'importe quelle façon, Phil Evans. Excepté par l'hypothèse que notre prison ait changé de place. » Je le répète, si nous étions sur un chariot en marche ou sur un bateau en dérive, nous le sentirions. Fricolin poussa alors un long gémissement, qui eût pu passer pour son dernier soupir, s'il n'eût été suivi de plusieurs autres. J'aime à croire que ce Robur nous fera bientôt comparaître devant lui, reprit Phil Evans. Je l'espère bien, s'écria oncle Prudent. Et je lui dirai, quoi, qu'après avoir débuté comme un insolent, il a fini comme un coquin. En ce moment, Phil Evans observa que le jour commençait à se faire. Une lueur, vague encore, filtrait à travers l'étroite meurtrière, évidée dans la partie supérieure de la paroi, à l'opposé de la porte. Il devait donc être 4 heures du matin environ, puisque c'est à 7 heures que, dans ce mois de juin et sous cette latitude, l'horizon de Philadelphie se blanchit des premiers rayons du matin. Cependant, quand oncle Prudent eut fait sonner sa montre à répétition, chef-d'œuvre qui provenait de l'usine même de son collègue, le petit timbre n'indiqua que 3 heures moins le quart, bien que la montre ne se fût point arrêtée. « Bizarre, » dit Phil Evans. « À 3 heures moins le quart, il devrait encore faire nuit. »« Il faudrait donc que ma montre eût éprouvé un retard, » répondit oncle Prudent.
Une montre de la Walton Watch Company, s'écria Phil Evans.
Quoi qu'il en fût, c'était bien le jour qui se levait. Peu à peu, la meurtrière se dessinait en blanc dans la profonde obscurité de la cellule. Cependant, si l'aube apparaissait plus hâtivement que ne le permettait le 40e parallèle, qui est celui de Philadelphie, elle ne se faisait pas avec cette rapidité spéciale aux basses latitudes. Nouvelle observation de Oncle Prudent à ce sujet, nouveau phénomène inexplicable.
On pourrait peut-être se hisser jusqu'à la meurtrière, fit observer Phil Evans, et tâcher de voir où on est.
On le peut, répondit Oncle Prudent.
Et s'adressant à Fricolin, « Allons, Fri, au surpied. »
Le nègre se redressa.
« Appuie ton dos contre cette paroi, » reprit Oncle Prudent. « Et vous, Phil Evans, veuillez monter sur l'épaule de ce garçon, pendant que je contrebuterai, afin qu'il ne vous manque pas. »«
Volontiers, » répondit Phil Evans.
Un instant après, les deux genoux sur les épaules de Fricolin, il avait les yeux à la hauteur de la meurtrière. Cette meurtrière était fermée, non par un verre lenticulaire, comme celui d'un hublot de navire, mais par une simple vitre. Bien qu'elle ne fût pas très épaisse, elle gênait le regard de Phil Evans, dont le rayon de vue était excessivement borné.
« Eh bien, cassez cette vitre, » dit Oncle Prudent, « et peut-être pourrez-vous mieux voir. »
Phil Evans donna un violent coup du manche de son Bowie knife sur la vitre, qui rendit un son argentin, mais ne cassa pas. Second coup plus violent, même résultat.
« Bon, » s'écria Phil Evans. Du verre incassable.
En effet, il fallait que cette vitre fût faite d'un verre trempé d'après les procédés de l'inventeur Siemens, puisque malgré des coups répétés, elle demeura intacte. Toutefois, l'espace était assez éclairé maintenant pour que le regard pût s'étendre au dehors, du moins dans la limite du champ de vision coupé par l'encadrement de la meurtrière.
« Que voyez-vous ? »
demanda Oncle Prudent.
« Rien. »
« Comment ?
Pas même un massif d'arbres ? » ?»«
Non. » »«
Pas même le haut des branches ? » ?»«
Pas même. » »«
Nous ne sommes donc plus au centre de la clairière. » ?»«
Ni dans la clairière, ni dans le parc. » »«
Apercevez-vous au moins des toits de maisons, des fêtes de monuments ?» dit Oncle Prudent, dont le désappointement mêlé de fureur ne cessait de s'accroître.
« Ni toits, ni fêtes. » »«
Quoi ? Pas même un mât de pavillon ? Pas même un clocher d'église ? Pas même une cheminée d'usine.
Rien que l'espace.
Juste à ce moment, la porte de la cellule s'ouvrit. Un homme apparut sur le seuil. C'était Robur.
« Honorable balloniste, dit-il d'une voix grave, vous êtes maintenant libre d'aller et de venir.
Libre ?
S'écria Oncle Prudent.
Oui,
dans les limites de l'Albatros.
Oncle Prudent et Phil Evans se précipitèrent hors de la cellule.
Et que virent-ils ? À 1200 ou 1300 mètres au-dessous d'eux, la surface d'un pays qu'ils cherchaient en vain à reconnaître.